Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn Salé. Ce soir, je suis en compagnie de Juliette.
Bonsoir.
Arthur.
Bonsoir.
Margot.
Bonsoir.
Pauline.
Bonsoir.
Et Nora.
Bonsoir.
Et moi-même, Valentine. Et nous allons commencer par une question d'actualité sur les Césars qui ont eu lieu il y a maintenant une petite dizaine de jours. Puis nous enchaînerons sur film marocain, La mère de tous les mensonges, avant d'enchaîner avec Dune, deuxième partie qui est sortie cette semaine. Et puis nous terminerons sur Madame de Sévigné. Sans plus attendre, on va tout de suite commencer avec la question des Césars. L'idée, c'était de revenir un peu sur la cérémonie, sur ce que nos différents chroniqueurs en ont pensé. Évidemment, sur la prise de parole de Judith Godrèche. Et surtout sur ses répercussions et éventuelles conséquences de court terme, puisque pour l'instant, les conséquences de long terme, on les évalue pas trop, on les a pas encore vraiment. Et puis sur éventuellement d'autres questions que les uns et les autres souhaiteraient soulever.
Bah, s'il faut, je peux commencer. Moi, je peux dire que déjà, niveau palmarès, en tout cas... L'équipe de Popcorn a regardé les Césars et on était ravis de voir ce raz-de-marée qu'a provoqué Justine Triet, qui a donc, je le rappelle, Anatomie d'une chute, a donc obtenu le César de la meilleure actrice, du meilleur scénario, du meilleur acteur dans un second rôle.
Meilleur film,
meilleure réalisation et donc meilleur montage. Donc voilà, je pense qu'on est tous très contents et c'est aussi, ça reflète l'état d'un cinéma qui change, qui veut s'emparer d'autres sujets et qui fait le lien, enfin qui a sa place et qui aussi peut-être regrette un peu de ne pas avoir envoyé Justine Triet aux Oscars pour représenter la France, puisque c'est un peu en soi les mêmes gens qui votent pour les Césars et pour les films qui représentent la France, je crois, pour les Oscars, et donc qui avaient voté en début d'année pour Trananung et Dodin Bouffant, qui s'est d'ailleurs bien fait snober par contre. Mais moi, j'ai un truc sur lequel j'aimerais revenir et qui me semble un peu remarquable, c'est le fait que c'est Monia Chokri, que vous avez d'ailleurs pu entendre sur notre antenne, mesdames et messieurs, qui a gagné le César du meilleur film étranger. Et face à elle, elle avait quand même une compétition qui était assez
rude. Que des hommes.
Déjà que des hommes, mais elle avait Nolan avec Oppenheimer, qui était donné grand gagnant et qui est donné grand gagnant des Oscars. Il y avait Wim Wenders avec Perfect Days, qui est quand même un grand nom. Il y avait... Coris Maki aussi, qui est quand même des piliers du cinéma. Et là, qu'on récompense un cinéma féminin qui parle du féminin, qui parle de sujets considérés comme féminins parce que le couple, qui récompense aussi une comédie, c'est super fort et c'est aussi ça marque un changement dans les sujets qu'on veut voir au cinéma. Et je trouve que ça augure du bon dans ce qu'on va pouvoir provoquer ensuite et dans les signaux qu'on envoie. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter.
Ah bah on était tous euphoriques je pense, mais en plus Monia Chokri montait sur scène en disant I'm sorry Mr. Christopher Nolan. elle revenait pas elle-même, c'était touchant. Non mais on était vraiment contents à Popcorn, je sais pas si quelqu'un était pas content, vous pouvez me contredire. J'aime bien avoir la contrainte, non. Ok, on est tous en consensus, c'est horrible.
Même elle était étonnée hein, je pense de l'avoir et c'était cool de l'avoir quoi. Ouais. Et moi j'étais super contente aussi pour le César du meilleur acteur pour Harry Vortalter, c'est ça ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'était pas considéré comme étant le favori de la catégorie. Enfin, j'avais l'impression que c'était plutôt Romain Duris ou même Raphaël Quenard, etc. Mais je trouvais que sa performance dans Le procès Goldman était assez saisissante et puis on n'a pas trop l'habitude de voir cet acteur. Enfin, moi je ne le connaissais pas du tout. Mais du coup j'étais très contente de ça. Voilà, je sais pas si vous aviez...
Mais moi, j'ai une anecdote à propos de cet acteur.
C'est ton
je l'avais pas reconnu, mais non, mais je l'avais pas reconnu.
Ah oui.
Parce qu'il est super différent dans Le procès Goldman.
Mais
et
il
moi,
est rasé,
je me suis...
quoi.
En fait, j'ai passé une heure à me dire, mais putain, c'est qui le lead, enfin le rôle principal du procès Goldman, qui s'appelle Arié, je n'arriverai pas à prononcer son nom et je ne m'y risquerai pas, et que je n'ai pas reconnu. Genre, j'étais en mode, mais c'est qui, c'est quel personnage dans le film? Ai-je dormi à ce point durant Le procès Goldman? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était juste rasé dans le film. Voilà, émission cinéma de qualité. Sinon, moi, j'ai été hyper contente aussi du César du meilleur documentaire pour Kauter Benania sur Les filles d'Olpha, qui pour moi, je sais que vous n'avez pas aimé Arthur. Moi, j'ai adoré ce film.
Moi aussi, j'ai adoré.
C'était vraiment, on est plusieurs à avoir adoré. C'était vraiment un documentaire innovant. Et cette année, en plus, on a eu pas mal de super documentaires, notamment Notre corps sur l'Adamant, qui étaient en lice également et qui se sont fait défoncer et voilà, et donc que les filles d'Alpha aient gagné, moi j'ai trouvé ça, enfin j'étais vraiment contente parce que je m'y attendais pas nécessairement et en fait il y a eu plein de surprises durant cette cérémonie des Césars, alors qu'on est habitué à avoir quand même des prix qui globalement nous déçoivent, voire nous énervent, voire nous...
Oui. Bref. Puis la plupart des catégories meilleurs films, donc que ce soit meilleur film documentaire, meilleur film étranger, meilleur film d'animation, meilleur court-métrage d'animation, etc., tous étaient gagnés par des femmes. Le meilleur court-métrage d'animation d'ailleurs, qui s'appelle Été 96, est super, il est sur France TV. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà vu. Et je trouvais que c'était bien, ça montre que le cinéma change et surtout que les gens qui votent commencent à changer leur perception aussi.
Après, pour mettre une note négative et niquer l'ambiance, c'est une vitrine et il y en a... Enfin, je pense que c'est pas du tout forcément mon avis, mais en tout cas, c'est un avis que je me permets de relayer ici. C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Et voilà, on en discutait tout à l'heure avec Arthur, hors antenne. on sait pas vraiment comment la prise de parole de Judith Godrèche a réellement été reçue, que ce soit par le milieu... par les médias, par l'extérieur, il se peut que voilà, nous ici, on était vraiment, je pense, tous émus. Enfin, j'emploie ce mot, je pèse mes mots, quoi. On était vraiment émus de voir une telle prise de parole qui était représentée, visibilisée. Mais je pense peut-être que c'était aussi une soirée vitrine, quoi, et que dès le lendemain matin. Le cinéma français a continué à être ce qu'il était auparavant, sans que rien n'ait nécessairement changé. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais...
Bah, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord là-dessus. Enfin, je trouve que, enfin, évidemment, il n'y a rien à reprocher à Judith Godrèche. Enfin, je veux dire, elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle a dit des choses très fortes et très importantes. Après, moi, j'ai pas pu m'empêcher d'être un peu mal à l'aise devant tous ces gens qui se lèvent unanimement, genre « Ah, waouh, Judith, on te soutient depuis le début !» Enfin, bon, c'est quand même un peu facile et effectivement, se pose la question de l'après prise de parole. Moi, j'ai quand même eu l'impression que c'était que toute l'organisation des Césars, les quelques jours avant qu'ils se tiennent, a été hyper dans la promotion de ça va être les premiers Césars féministes, les Césars post-MeToo, je sais pas quoi. Bon, il y a quand même beaucoup de com là-dedans et je sais pas vraiment ce que ça va donner. Mais bon, voilà, c'est quand même un petit peu facile de juste applaudir. Dans sa petite robe de soirée, en mode waouh, bravo, ou dans son petit costume, et voilà, et de rentrer chez soi et de s'en foutre, quoi. Mais bon, c'est le jeu des Césars aussi, quoi, voilà.
Mais c'était Judith Godrèche qui en parlait, du coup, j'avais vu passer l'info, je voulais m'en assurer, mais quand elle a eu une audition, du coup, passée au Sénat, où elle a dit que le soir même, alors certes, elle avait reçu le soutien d'un certain nombre d'actrices, d'acteurs et de personnalités du cinéma, mais qui en même temps s'est retrouvée reléguée tout au fond de la salle, un peu isolée, comme si c'était finalement une personne qui n'était plus désirée dans cette grande famille du cinéma français. Et moi, ça me fait dire que là, on est en train de dire, on est en train de vivre le Me Too du cinéma français, quand j'ai l'impression que ça fait 3 ou 4 fois en fait, qu'on le vit. C'est-à-dire qu'on a eu, après Weinstein, où il y a eu une déflagration quand même dans le cinéma français, mais ça a été moindre que dans celle du cinéma américain, on a eu Polanski et Adèle Haenel. Enfin, ça a duré extrêmement longtemps. Quand Adèle Haenel a parlé de ce qu'elle avait vécu avec Christophe Ruggier, ça a été extrêmement fort. Et pourtant, on a eu quand même une impunité qui a persisté pour des personnalités qui étaient des agresseurs notoires. Je pense notamment à Gérard Depardieu, dont c'était su depuis bien avant. Et même nous, on le savait. Enfin, je veux dire, on n'a pas attendu le complément d'enquête paru sur France 2 il y a 3 mois pour le savoir. C'est quelque chose qui était déjà su auparavant. Et pourtant, c'est resté là. Et moi, c'est toujours. Enfin, c'est un truc que je me dis. C'est quand on dit aujourd'hui, on vit le MeToo français, mais ça fait 6 ans, 7 ans qu'on vit le MeToo français. Et ça fait 6 ans ou 7 ans que visiblement les institutions, à part faire un gommage esthétique, un peu par là au Festival de Cannes, un peu par-ci au César. Bon, il se passe pas grand-chose en vrai, on met de côté les prénoms ou les noms les plus problématiques, et c'est très bien. On donne de la parole à Judith Godrèche qui en effet a fait la prise de parole la plus courageuse de la cérémonie, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les changements institutionnels profonds, on les attend toujours et j'ai pas l'impression qu'ils soient à l'ordre du jour en ce moment.
Oui, c'est ça, il y a un côté un petit peu politiquement correct là-dedans, dans le fait de trouver Judith Godrèche qui, pour le coup, sans remettre en cause sa parole ou quoi, mais va être un petit peu la figure mise en avant pour masquer la forêt. Et des gens, tu citais Adèle Haenel, elle s'est retirée certes, elle, mais même en théâtre, on l'entend pas parler, elle est jamais mise en avant. Et puis, elle est peut-être moins politiquement correcte du point de vue du cinéma français en général. Et donc, on attend toujours ces changements des changements profonds à ce niveau-là, quoi.
Ouais, moi je crois que je suis assez d'accord avec vous. Après, je nuancerai, enfin, je suis d'accord avec vraiment tout ce que vous avez dit sur le fait que le MeToo français, il dure depuis extrêmement longtemps. À chaque fois, c'est le renouveau. Et ça, je souscris à cette analyse. Après, moi, cette cérémonie, elle m'a quand même fait plaisir parce que j'avais en tête forcément le souvenir des Césars 2020. Donc les Césars où Adèle Haenel, on en parlait, et qui est d'ailleurs une figure importante et que, enfin, on parle de Judith Godrèche, mais si Judith Godrèche elle a pu faire ce discours, c'est aussi parce qu'il y a eu Adèle Haenel qui a pu, enfin, qui a fait ça en 2020 et qui a posé cette première pierre. Et je trouve qu'il faut aussi lui rendre cet hommage-là. Mais quand je me souviens de ce qui s'était passé au César 2020, c'est-à-dire que Adèle Haenel était juste partie parce que, enfin, et tout le monde l'a hué. Enfin, c'était, enfin, et là, enfin. C'est que de la représentation, on est d'accord, mais c'est déjà un petit pas en soi. Enfin, un petit pas, ça va pas changer grand-chose. Mais moi, en tant que spectatrice, ça me fait plaisir de voir que déjà, médiatiquement, on peut pas faire la même chose qu'en 2020. Et de voir que les choses ont évolué, et que les choses ont évolué notamment grâce à Adèle Haenel, qui d'ailleurs a repris la parole récemment parce que... on n'en a pas parlé dans Salé, mais du coup, il y a le film de Bruno Dumont qui est sorti, L'Empire, et elle avait été avait commencé à jouer le rôle ou avait
Elle était censée jouer le rôle que joue Anna Maria Bartolomei.
Mais ouais. Je ne sais pas si elle avait commencé à filmer ou pas, et en fait, elle s'est retirée du projet.
Non, elle avait juste accepté.
Voilà. Elle s'est retirée du projet parce qu'elle a trouvé le scénario raciste et sexiste. Et en fait, et elle a dit qu'elle avait essayé de négocier avec Bruno Dumont et que ça n'avait pas été possible. Donc, on voit bien que l'industrie, elle n'a pas changé, mais néanmoins... Je pense que c'est quand même... Enfin, moi, juste en tant que spectatrice, ça me fait plaisir de voir que les choses ont ne serait-ce qu'un peu évolué. Et surtout, je voulais dire après, pour rebondir sur ce que vous disiez, il me semble que j'ai vu Judith Godrèche, qui disait aussi qu'après, il y avait beaucoup de gens qui étaient allés lui parler, mais que ces gens-là, c'était notamment tous presque des femmes. Je ne me souviens plus de ma source, donc c'est un peut-être...
Dans l'idée, elle cite Virginie Efira.
Voilà, exactement.
Et elle cite un seul homme, voilà, qui est Thomas Caillé.
Voilà, c'était... Donc on voit bien, en fait, qui soutient aussi ceux et celles qui prennent la parole, et en général, c'est des femmes, quoi.
Après, moi, je suis d'accord que c'est quand même plutôt... On peut pas nier le fait que c'est positif par rapport au César qu'on a pu avoir avant. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que... Enfin, on a quand même une année qui a été marquée par la déflagration des révélations sur Gérard Depardieu. Enfin, même si ça se savait, le fait que ça devienne aussi médiatique, c'est quand même quelque chose qui a marqué cette fin d'année du cinéma français. Et pas un seul mot n'a été prononcé à propos de ça, donc... Enfin, je sais peut-être que je suis complètement tordue en pensant ça, mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai l'impression que le monde du cinéma réalise qu'il faut, on va dire, un peu suivre la marche du temps. Et genre, en fait, on se dit que c'est OK de déboulonner des figures comme Benoît Jacquot ou Jacques Doyon, parce qu'au final, même si ils étaient connus et tout, ça reste un cinéma assez confidentiel, un cinéma d'auteur qui a jamais fait énormément d'entrées, ni quoi que ce soit, alors que par contre, Gérard Depardieu, ça, on n'y touche pas, quoi. Enfin... Je sais pas si je suis un peu tordue en pensant ça, mais moi c'est un peu l'impression que ça
tordue,
me donne.
Ouais, t'es
tordue, ouais. Je suis complètement tordue, c'est un peu l'impression que ça me donne quand même, quoi.
Non, mais moi je suis complètement d'accord avec toi, enfin, effectivement. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire.
Ouais, et puis, il y a d'autres débats qui sont soulevés parce qu'il y a un peu ce côté aussi. Ok, vous voulez que les Césars soient. Enfin, respectent. Les valeurs que vous portez et tout, et donc dans ces cas-là, il n'y a que des blancs, enfin, si on veut. Si on veut vraiment que ce soit une cérémonie exemplaire, il y aurait vraiment beaucoup de boulot à faire sur plein d'autres sujets. Et voilà. Mais après, moi, je dis tout et son contraire parce que j'essaie d'animer ce débat. Mais non, mais je pense quand même que c'est... la prise de parole de Judith Godrèche, même si elle a été applaudie par un parterre de stars, elle est loin d'être politiquement correcte. Et elle est quand même, je pense, dans le contexte français, osée. Et vraiment importante. Suivi des faits, ça, je ne m'avancerai pas. Mmh. Mais en tout cas, importante dans ce qu'elle a, même si on considère que c'est que de la représentation et que de l'image, le cinéma, c'est quand même avant tout des images. Et donc, c'est important, je pense, d'avoir ces images et ces mots qui, par ailleurs, étaient vraiment... moi, j'ai trouvé très fort et très... pour les amoureux de la langue que nous sommes, c'était un vrai moment d'émotion de voir... la parole et la parole d'une femme comme ça au service de causes importantes. Et je pense que l'image de Judith Godrèche à la tribune, enfin la tribune, pour qui tu te prends, sur la scène, en train de parler, de prendre la parole, c'est une image qui va rester. Donc après, même si c'est qu'une image, c'est déjà un bon début. Et donc moi, je suis plutôt très, très contente, satisfaite n'est pas le mot, mais contente de ce qui s'est passé.
Par contre, au début, moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre pourquoi elle utilisait souvent la métaphore du hamster. Et j'ai dû chercher sur Twitter.
Moi, j'ai toujours pas compris. Hein.
En fait, c'est parce qu'un hamster ronge les barreaux de sa cage avec ses dents. Je crois que c'est ça. Okay. Parce que quand j'ai tapé Judith Godrèche hamster sur Internet, il y avait marqué... Il y avait des sites, un site porno qui s'appelle Hamster X, Judith Godrèche nue, etc. Je me suis dit, oula, ce n'est pas ça.
Donc voilà où la société française en est. Donc
j'ai cherché sur Twitter et ils ont dit le hamster qui ronge les barreaux de sa cage. J'étais en mode ah, ça fait sens.
Ok, bah moi j'avoue, c'est pas la partie de son discours qui m'a le plus marqué, mais je me
les petites filles sont des punks, j'ai beaucoup aimé.
À sa série.
Oui,
j'y ai pensé. Que je n'ai pas regardé en entier parce que j'ai.
Ah oui,
pas...
c'est peut-être.
Oui, oui, parce qu'elle est déguisée à un moment en peluche géante et qui ressemble étrangement à un hamster.
Oui, mais c'est peut-être un lien avec.
Oui, oui, non, j'imagine que c'est pas la peluche qui lui.
Est-ce que t'as vu la série?
Oui.
Elle est bien?
Non.
Je pense que c'est le moment de conclure sur les Césars, j'en suis même sûre, on me l'a dit, on me l'a répété. Donc on va passer maintenant à notre premier film de cette semaine qui va nous être présenté par Margot.
The floor is yours. من بعد سنين ديال السكات انا وبابا خلقنا هذا المكان باش نحافظوا فيه ذكرياتنا وحبوبها. ملي خرجتو من ديارهم وجبتو معايا لهنا الغرض ديالي نعاودو نبنيو الذاكره من جديد.
غاتعوق لك اوجي تعاقد
تعالى يا ونعيد لي تعالى
حاول الكلام اللي بقى مخنوق في ديارنا هادي سنين.
La mère de tous les mensonges, c'est un documentaire d'Asmal El Moudir, donc une réalisatrice marocaine qui revient dans ce documentaire sur l'histoire politique du Maroc et en particulier les années de plomb au Maroc qui ont eu lieu sous le règne du roi Hassan II. Et oui, j'ai révisé mes cours d'histoire. En fait, c'est un film qui cherche à revisiter cette histoire nationale, en fait, à travers l'histoire de la famille de la réalisatrice et de leurs voisins proches qui, sans vouloir trop vous en dire, ont été au cœur de certains événements assez traumatisants qui se sont passés dans les années 80, si je ne m'abuse, en 81. Et donc voilà, c'est un film qui cherche à questionner l'héritage, ce qu'on fait de ces souvenirs traumatisants à travers en fait des personnages, parce que c'est un documentaire, mais il y a une forme de narration, d'artificialité, donc voilà, il y a des personnages qui ont, on va dire, des visions différentes de ces événements. Et je vais m'arrêter là et passer le micro à Enora.
Alors moi j'ai trouvé que le parti pris était intéressant sur le papier, c'est un processus de fabrication en fait qu'on voit se faire sous nos yeux. Il y a une sorte de mise en abîme du récit via les scènes reconstituées en, je sais pas trop, c'est du carton pâte ou une autre matière, enfin bref. Et ça lie donc l'intime à l'histoire collective des, je crois que c'est les révoltes du pain de 81 au Maroc,
ouais.
Enfin, j'ai lu ça. Et comment ça a impacté à la fois la société marocaine et la famille de la réalisatrice, notamment sa grand-mère qui est un personnage vraiment acariâtre, qui est même affreux et qu'il nous faut comprendre pour en saisir l'humanité, si on veut. Notamment, on la voit pleurer un moment. Et donc ce décor, c'est aussi pour lutter contre l'interdit de la représentation, le tabou de la photo. La grand-mère refuse qu'on la prenne en photo. La réalisatrice elle-même n'a aucune photo d'elle de quand elle était petite et sa mère doit mentir en volant une photo à l'école pour lui faisant croire qu'elle est sur la photo. Enfin bref. Et donc c'est une manière de représenter sans filmer ou. Mais malgré tout, je suis pas vraiment rentrée dedans. J'ai pas trop adhéré. J'ai trouvé que la narration et le concept s'essoufflaient vite. Je crois que c'est Juliette, toi, qui en parlait sur Letterboxd. Tu trouvais que ça faisait très court métrage et je suis d'accord, enfin, ça aurait pu être beaucoup plus court. Et dans la même veine de documentaire sur l'histoire familiale et collective, etc., j'ai trouvé que Bye Bye Tiberiade ou Les Filles d'Olpha étaient beaucoup mieux faits et plus touchants. Voilà, je sais pas si quelqu'un d'autre va en parler. Sûr.
Donc oui, La mère de tous les mensonges, moi c'est un film qui m'a laissé malheureusement de côté, alors que je trouve, comme tu disais, qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes, notamment tout ce travail sur qui va être surtout vu en fait pendant les 10 premières minutes du film, qui va être toute la reconstitution à un moment d'un épisode de la vie de la protagoniste, donc du coup qui est la réalisatrice, et qui nous raconte comment elle a vécu une soirée où elle s'est enfuie de la maison et où elle s'est fait photographier par un photographe de quartier. Et c'était une scène qui, pour le coup, est super belle parce qu'elle est faite, qui est faite avec des poupées dans un quartier reconstitué en papier mâché, en miniature. Et là, pour le coup, c'était une scène que j'ai adorée et ça rejoint un truc que je dis souvent, assez souvent pour les effets spéciaux, mais qui se retrouve là, c'est que même des effets dont on sait qu'ils sont faux, et là, évidemment, on sait que c'est faux, on sait que c'est pas une reconstitution dans la vraie vie, c'est vraiment du papier mâché avec des poupées qui sont même pas animées, ou quasiment pas animées, et pourtant elles nous ces images-là nous paraissent plus vraies que toutes les autres images qu'on aurait pu voir à ce moment-là, parce qu'elles se concentrent sur la sensation, et que vous voyez une maison construite de 20 cm de haut, ou une maison de 2 mètres, si la sensation du mur, si on le touchait, nous semble être la même, si les bruits nous semblent être les mêmes, si quand la lumière se propage, nous semble être la même, alors on trouvera ça réaliste, et ça nous parlera, puisque au final, les sensations que le personnage a ressenties et qu'elle a retranscrites, bah, elles nous parviennent également. Et c'est horrible parce que le film en fait, va faire après un travers qui va de juste parler et ne plus montrer, quasiment plus montrer ce qu'ont été les événements qu'ont connu cette famille-là. Et d'un coup, moi, je trouve le film se rate. Et j'aurais tellement aimé qu'on se concentre davantage sur cette miniature, sur comment on reconstruit un passé avec ces outils-là. Oui, certes, en insérant les témoignages des différents protagonistes, mais en fait, en se basant sur cet outil qui est hyper ludique, qui est la miniature. Et c'est hyper dommage parce que les récits derrière sont certes extrêmement forts, extrêmement poignants, mais on a une distance qui se crée avec ça, parce que je trouve que ils sont pas forcément très très bien filmé, très très bien montré. Il y a un jeu hyper bizarre de la réalisatrice, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si c'est des images prises sur le vif, et il y en a parfois, ou des images qui ont été recherchées dans le sens où est-ce qu'on a placé les différents personnages et tout ça. Il y a toujours un jeu qui se joue, qui peut parfois être intéressant en fait, mais qui là tombait, je trouve, la plupart du temps à plat, parce qu'on ne savait pas si on avait à faire une réaction spontanée ou à faire une réaction scénarisée. Et là, nous, on a été en présence de la réalisatrice le voir avec Juliette, où elle était juste là en introduction, on n'a pas pu lui poser des questions après, mais elle nous disait justement qu'il y avait un peu une recherche de ça, en fait, de ce flou artistique entre des images qui auraient été dirigées et d'autres qui ne l'auraient été pas, qui auraient été spontanées. Et je trouve dans un documentaire ce flou, surtout dans ce documentaire-là, qui marche pas du tout. Et j'aurais préféré avoir une frontière bien nette. Et là, ça perd le propos qui, en plus, je trouve, est certes très intéressant, mais qui est très répétitif et qui, au final, ne développe pas grand-chose. Je sais pas. Et du coup, toi, Pauline, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Du coup, moi, je vais pas être d'accord sur la première scène. Moi, en fait, ça m'a perdu tout de suite. Ces espèces de figurines-là, j'ai pas trop compris le principe. Et ça, j'ai vraiment pas accroché pour le coup. Surtout, d'autant plus qu'en fait, elle filme très très bien les visages. Elle fait des plans rapprochés de sa mère, notamment quand elle chante, qui sont assez touchants, qui sont assez bien réussis, qui sont pas mal filmés et tout. La photographie est pas dégueulasse, mais sur les figurines, je comprends pas trop ce qu'elle a voulu montrer. Je trouve que ça nous perd. C'est un peu, je rejoins ce que vous avez dit du coup. Et en fait, c'est dommage. Et je dirais pas qu'il est mauvais, mais je dirais qu'il y avait un assez haut potentiel et qu'il n'a pas été exploité, notamment sur la dimension du récit, quoi. Ça s'appelle la mère de tous les mensonges. Les mensonges ne sont pas là, et même la dimension de récit qui semble être là un petit peu au départ, on la perd très vite pour tomber dans quelque chose d'un peu éclaté où en fait le récit est plus présent ou alors est mal monté, je ne sais pas. Mais enfin, il me manque quelque chose et je n'ai pas envie de démonter le film. Il y a pas mal de bonnes idées et de bonnes choses, mais le tout n'est pas... on pourrait s'attendre à beaucoup mieux, et je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel. Je sais pas qui veut rebondir. Vas-y, Juliette.
Moi, je suis d'accord avec vous. Enfin, je pense qu'on a à peu près tous le même avis, c'est-à-dire que moi, visuellement, je trouve le film intéressant. Mais déjà, pour ce truc des petites figurines, moi je trouvais ça très intéressant justement de dire en fait on peut pas prendre d'images, donc comment est-ce qu'on va reconstituer ces images-là ? Parce qu'au départ, le postulat du film, c'est toi Arthur qui le disais ou Enora, je sais plus. Enfin, en gros, c'est la grand-mère interdit de prendre des photos, donc on n'a pas le droit de prendre d'images réelles, donc comment on va faire ? Elle reconstitue avec son papa et ça fait des trucs super émouvants. La ruelle en petit, moi c'est des trucs que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup au cinéma parce que ça fait très artisanal ces petites figurines, même si esthétiquement, moi c'est pas forcément
mon esthétique. Je trouve que c'est bien pensé. C'est, enfin voilà, je trouve qu'il y a de la réflexion. Mais déjà, moi, ce qui m'a gênée dans cette première scène où justement on reconstruit sa soirée par là, c'est d'un point de vue technique, c'est que pourquoi elle a pas animé ? En fait, on la voit changer les figurines. Pardon, le stop motion, tu prends des photos. Enfin,
non, là, je suis pas d'accord. Je trouve hyper dur. C'est, enfin, ça aurait pu être un super beau geste de cinéma de dire je n'animerai pas et je laisserai juste porter par une photo rajouter du son. Ce qu'elle fait la plupart du temps, je trouve ça dommage. Au contraire, moi je trouve que ça aurait été un geste de cinéma beaucoup plus fort de se limiter à ça plutôt que d'essayer de faire du stop motion qui, quand elle le fait, est bien fait pour ce qu'elle fait, mais qui est pas, je trouve, essentiel, tu vois.
Bah déjà, elle en fait pas, donc je sais pas ce qu'elle ferait. Moi, c'est juste que ça m'a vraiment gêné de, enfin, ces images fixes. En fait, parce que du coup, il y a plein de moments où elles sont fixes. Ça me dérange pas quand on les voit, on les voit bouger, etc. Mais j'avoue que, en fait, pour moi, il y avait vraiment matière à. Et le stop motion, c'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement dur. Enfin, elle a un appareil photo, elle en fait pas beaucoup. Du coup, c'est plus une économie de moyens. Mais pour moi, ça fait beaucoup plus sens. Et pour raconter un souvenir, c'est pour moi, enfin, je sais pas. Esthétiquement, je trouve que ça aurait fait plus sens. Et en fait, moi, je pense que là où je vais situer le problème du film, c'est sa narration. En fait, j'ai l'impression qu'il part pas d'un point A à un point B pour nous raconter quelque chose. Il est possible que je me sois un petit peu assoupie pendant le film, mais là, en fait, enfin, le fait que je me sois assoupie, ça, j'ai pas l'impression d'avoir manqué quelque chose, en fait. Et même, j'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose dans ce documentaire, que ce soit sur l'histoire de l'Algérie. En fait, tout reste flou parce qu'elle ne donne.
J'ai vraiment beaucoup dormi.
J'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose de plus sur l'histoire du Maroc parce qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'elle apporte vraiment beaucoup d'éléments historiques. Elle parle du vécu, mais si on n'a pas le background historique derrière, ce qui, je pense, est le cas en vrai de beaucoup de monde.
On n'a pas lu le résumé.
Moi, j'avais pas lu les résumés. En fait, j'ai pas très bien compris. Je comprends qu'il y a des choses qui se passent, que voilà, ça ressemble à une dictature, etc. Bon, voilà, mais à part ça, j'ai pas les tenants, les aboutissants. J'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose. Et je pense aussi que c'est dû au montage, en fait. Je pense que parce qu'elle disait, du coup, avant le film, qu'elle avait eu énormément de rush, qu'elle avait genre 7 ans de rush, je sais pas quoi, qu'elle a dû faire des choix. Mais en fait, pour moi, ce film n'a aucun sens du rythme, n'a pas de sens de montage. Et c'est ça qui pose problème, parce que malgré toutes des idées de mise en scène intéressantes, des postulats de base intéressants, si on n'en fait rien en termes de récit, si on ne veut pas raconter une histoire qui part d'un point A à un point B en nous racontant des événements, en plus un documentaire, on est censé apprendre quelque chose, même si c'est du point de vue intime, on est censé en retirer quelque chose. Moi là, j'étais dans un flou où je trouvais ça certes esthétiquement beau et le postulat beau, mais je suis restée en dehors parce que elle peut passer le même plan de sa mère qui dure 10 secondes 10 fois dans le film, qui nous apprend rien d'autre que ah oui, ce plan est beau, la première fois effectivement c'est émouvant, mais en fait à part ça, elle répète les mêmes plans et du coup je comprends pas pourquoi elle a gardé ces plans là et pas fait d'autres choix de récit, de montage, parce que c'est au montage qu'un documentaire ça se fait effectivement, mais du coup là je pense que c'est ça qui a pêché et qui du coup moi me déçoit un peu. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais enfin c'est pas, j'aurais, en fait je pense que ça aurait été un très bon court métrage. C'est Arthur qui me disait ça, en vrai je lui redonne la paternité à la sortie de la séance et je l'ai repris pour ma critique Letterboxd. Non mais du coup effectivement je pense que ça aurait fait un super court métrage, mais qu'en long il aurait fallu ajouter des éléments et que là il y avait pas le contenu, quoi. Je sais pas si Margot t'es d'accord.
Non bah écoutez, c'est assez ennuyeux comme moment parce que moi je suis complètement d'accord avec vous et en fait
tu te fais chier pour
rien. Ah non mais en fait je trouve ça assez intéressant, Juliette, le fait que tu te sois trompée sur l'Algérie et le Maroc, en fait.
C'est aussi juste très nul, en
fait. Non mais alors honnêtement, moi franchement pendant une demi-heure au début du film je ne savais pas où c'était, hein. Enfin je veux dire, évidemment tu te doutes que c'est au Moyen-Orient, mais enfin au Maghreb, pardon, mais
tu lis pas le synopsis avant d'aller voir un film.
Si bah tu devrais pas avoir
le film. Bah, c'est ça, exactement. Enfin, si pour savoir de quoi le film parle, tu as besoin de lire le synopsis, c'est qu'il y a un problème. Enfin...
Moi, j'aime bien le lire avant, mais là, j'ai pas eu le temps et c'est vrai que du coup, t'es un peu perdu. Hein.
Oui, donc en fait, si tu n'as pas lu le synopsis avant le film, à moins d'avoir une fine connaissance de l'arabe parlé du Maghreb, ce qui, de toute évidence, n'est pas notre cas, en fait, tu mets beaucoup de temps à comprendre où ça se passe. Enfin, t'as des espèces d'indices où pour un moment, il parle de Hassan II et du coup, j'étais en mode « Ah, une monarchie, bon, ça doit être le Maroc, ok. » Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un film qui a essayé de faire à la fois une histoire... très individuel d'une famille et un récit politique plus global et qui n'a réussi à faire aucun des deux en fait, et donc c'est quand même assez dommage parce qu'il y avait effectivement un potentiel plutôt présent. Et en fait moi même le postulat de base qui est, parce que c'est vrai que cette figure de grand-mère qui est assez centrale, le postulat de base qu'elle ne veut pas être prise en photo et que du coup on va reconstituer un théâtre de marionnettes, mais par contre on va la filmer et elle est ok avec le fait de se faire filmer, enfin je veux dire en fait très vite ça se tient pas du tout.
C'est quoi les mensonges? Enfin, moi, c'est une question. Oui. C'est quoi les mensonges dont elle parle? Elle dit la mère de tous les mensonges. C'est quoi ces mensonges?
Et c'est qui la mère? Est-ce que c'est la grand-mère? Est-ce que c'est la mère?
Oui, au final.
C'est la grand-mère, moi, mais.
on a du mal à comprendre les enjeux parce qu'on sent que le film essaie quand même de construire une espèce de narration autour du fait qu'il va y avoir une révélation autour de cette grand-mère, parce qu'en fait elle est représentée de manière tellement antipathique qu'on sent gros comme une montagne qu'il doit y avoir un moment un secret, une révélation, et au final la révélation elle est hyper décevante, enfin juste elle pleure à un moment quoi, elle est en mode bon bah voilà quoi, c'est bien dommage.
Et bah merci sur cette note qui vous montre encore une fois qu'on est sans cœur ici et que ça nous fait pas pleurer du tout les grand-mères qui pleurent. On va passer au second film, au deuxième film de cette semaine, Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve.
While since you've had one of those nightmares, tell me, what was it about?
It's only fragments. Nothing's clear. You've been fighting the Harkonnens for decades.
Luke!
My family's been fighting them for centuries.
Your blood comes from dukes. Them great houses. Here, we're equal. What we do for the benefit of all.
Well, I'd very much like to be equal to you.
Maybe I'll show you the way.
C'est Juliette qui va nous le présenter.
Et oui, donc pour Dune 2, toujours réalisé par Denis Villeneuve, on est de retour sur Arrakis avec donc Paul Atreides, les descendants d'une maison qui spoil par rapport au premier, parce qu'on est obligé de spoiler le premier pour vous raconter l'histoire du 2 vu que c'est une suite dont la famille s'est fait, enfin la famille, le clan, la maison s'est fait complètement décimer. Voilà, là il est de retour du coup sur, enfin il est sur Arrakis, il va avec un peuple qui s'appelle les Fremen, qui est donc le peuple un peu autochtone de cette planète, pour essayer de combattre et pouvoir en gros faire la lumière sur ce qui s'est passé, le massacre qui a eu lieu dans sa maison, donc dans les Atreides. Et pour ce faire, il fait notamment la rencontre de Chani, qui est donc jouée par Zendaya, une Fremen, et donc il va apprendre les coutumes de ce peuple, je pense qu'on peut dire peuple, se battre avec eux, etc. Et va s'en suivre. Voilà, il va apprendre leurs coutumes. Je pense que ça, c'est le postulat de base du film. Je sais pas ce qu'on vous racontera après, mais voilà. Et moi, je pense que je vais pas vous en dire plus parce que de toute façon, aussi, c'est des livres, donc ça se trouve, vous les avez lus. Bref, je m'arrête là. Je sais pas si Arthur, peut-être, tu voudrais commencer.
Oui, alors j'étais. Si vous aviez écouté l'émission il y a 3 ans, je crois que c'est la première fois que je parle de la suite d'un film que j'ai déjà chroniqué à Popcorn, ce qui ne me rajeunit pas. Et on en avait discuté avec Paul, que vous avez l'habitude d'écouter ça, que ça ne rajeunit pas non plus.
Moi-même, j'étais déjà là. Donc
mais ça... on est tous très vieux. Et donc à cette époque lointaine, avec Paul, on avait été très divisés, puisque moi j'avais beaucoup apprécié ce premier film de Dune. Paul, lui, avait été très réservé. Et il faut dire que pour moi, aujourd'hui, l'essai est complètement transformé. Et oui, alors c'était le premier film qui, en effet, dont le seul problème que j'avais trouvé était que la césure entre la première partie et la deuxième partie était vraiment très brutale et faite au scalpel, et que cette fois-ci, on avait enfin la résolution d'un film, et du coup j'ai réévalué en plus à la hausse le premier film. Il faut dire que le second remplit toutes les cases d'un grand spectacle épique qui sait à la fois charrier quelque chose d'intime et de spectaculaire, pas que dans les scènes d'action. C'est-à-dire que c'est un film où, quand on peut se balader sur la bande, si on ne voit que la bande d'annonce ou si on s'attend à un film d'action, c'est un film qui arrive à réserver scènes épiques, pas que pour ces scènes-là qui sont en final à fait assez peu nombreuses, mais pour tout le reste. C'est un film qui sait brasser des thèmes immenses et qui en plus sait reconstruire. Alors c'est pas Denis Villeneuve qui l'a inventé, c'est bien sûr Frank Herbert, l'auteur des livres Dune originaux, qui retravaille du coup cette figure du mythe et du héros d'une manière qui est hyper intéressante, qui détache complètement du héros, c'est l'anti-avatar en fait. C'est-à-dire que c'est enfin un film qui s'est traité de la figure du white savior, donc c'est-à-dire un blanc ou alors au moins un colonisateur qui arrive dans une tribu autochtone et qui va leur apprendre les us et coutumes ou qui va s'intégrer dans celle-ci pour les en libérer. Et le film va du coup parler de ce mouvement-là avec un regard plus critique qu'on a l'habitude de faire. Et en cela, c'est vraiment quelque chose d'hyper réussi. Et on rajoute à ça l'esthétique de Denis Villeneuve, qui est un cinéaste que j'aime énormément, qui a fait la suite de Blade Runner 2049, voilà, c'est cassé, c'est fait. Et qui ressort à nouveau son esthétique hyper brutaliste qui sied complètement à cet univers complètement dingue qu'est le monde de Dune. C'est un film qui qui est un sans faute pour moi, sans doute un de mes films préférés, une de mes fresques préférées de science-fiction. Et je pense peut-être le film, le meilleur blockbuster qu'il y a eu ces 10 dernières années à n'en point compter.
Mais tu n'as mis que 4.
C'est vrai qu'en vrai, plus j'y repense et plus je veux bien le remonter parce qu'il a vraiment un souffle que j'avais pas ressenti depuis des années. Je pense que c'est Mad Max Fury Road, le dernier blockbuster qui m'avait donné ça. Et à ce moment-là, je trouve que voilà, c'est un film qui, pour le grand public, pour le grand spectacle, est l'un des meilleurs produits qu'Hollywood aujourd'hui nous a donné. Et du coup, j'ai hâte de vous entendre, Margot, si tu veux.
Bah écoute, moi je suis assez d'accord avec toi. Je sais pas si je dirais que c'est le meilleur blockbuster des 10 dernières années parce que la vérité, c'est que je suis assez peu connaisseuse des gros blockbusters et justement, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de voir ce film et que ça m'a fait plaisir de prendre du plaisir à voir ce film parce que je trouve que rares sont les réalisateurs d'Hollywood qui arrivent à concilier une exigence esthétique, une exigence c'est du cinéma d'auteur mais à énorme budget et c'est hyper rare. C'est un objet qui est assez unique en son genre et je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un propos qui m'a vraiment surprise et que j'ai trouvé super intéressant sur la figure du héros, du mythe, du leader. Enfin, c'est assez profond et en fait c'est super intéressant de voir cette alternance entre le gigantisme des plans. Enfin, je veux dire, il y a des plans avec une profondeur de champ incroyable sur le désert en Jordanie, machin truc, qui sont vraiment sublimes, mais à la fois cette histoire plus intime qui moi m'a vraiment séduite. Et puis je trouve que la musique est hyper, Hans Zimmer, voilà, il fait quand même des très bonnes bandes son quoi, et là ça marche très très bien. Et par rapport au 1, je trouve que là où le 1 faisait quand même vraiment très prologue, là clairement t'as ce pourquoi tu payes quoi. Après je mettrais peut-être
t'as à manger,
à boire, il y a tout quoi. Après je mettrais peut-être il y a des petites réserves sur certains aspects narratifs notamment, mais que je comprends parce que enfin effectivement Dune c'est une œuvre titanesque et il y a tellement de personnages et c'est hyper riche. Bon, je dis ça, je l'ai même pas lu mais je fais genre je connais. Et il y a peut-être certains choix au montage que je n'aurais pas forcément fait. Qui suis-je pour dire ça ? Notamment, par exemple, le personnage qui est joué par Austin Butler. Alors, des gens qui connaissent très bien le livre m'ont dit que c'était un personnage qui était hyper important dans le livre et que du coup, tu pouvais pas le couper dans le film. Moi, personnellement, je trouve qu'il a pas une grande utilité. Mais bon, là, je suis plutôt dans le... Voilà, parce qu'on peut pas dire que des trucs positifs, sinon on s'ennuie. Voilà, Anora.
Je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit, même si, comme toi, Margot, moi, je suis pas friande d'habitude de ce genre de film, mais c'est quand même assez sympathique à regarder, c'est divertissant, et c'est beaucoup plus abouti, et on a beaucoup plus de choses à voir, on va dire, que dans le 1, qui, comme tu l'as dit, on restait un peu sur notre fin. Je me souviens, la fin du 1, c'était la rencontre, je crois, entre Chani et Paul, si je me souviens bien. Et on avait tout de suite envie de savoir la suite. On a dû attendre 2 ans et demi avant de le voir. Mais oui, voilà, c'est super beau, c'est très bien fait. On dit d'ailleurs souvent de Denis Villeneuve que c'est un peu un cinéaste presque architecte scénographe. Parfois, ça peut même paraître un peu froid, ces grands plans avec un seul personnage au milieu. Enfin, je pense à Paul dans le désert qu'on voit un peu en tout petit et c'est très beau. Mais c'est pas forcément très touchant. Il y a un casting qui est dingo, un peu trop. Enfin, il y a que des gens connus en fait, dont Léa Seydoux par contre, que je n'aime pas trop, mais c'est pas grave. Il y a aussi Souheila Yacoub qui est du coup, en fait, j'étais très fatiguée en le voyant. Du coup, même si c'est quand même un film très divertissant, j'étais quand même un peu lassée au bout d'un moment, surtout que l'histoire n'est pas limpide du tout, comme tu l'as dit, Margot. Et mais j'ai bien aimé le côté histoire entremêlée où on voit plusieurs personnages au début et après on les voit se recroiser et la fin m'a quand même bouleversée. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut en parler.
Moi je vais me joindre au concert de louanges. Moi j'avoue que je suis pas très familière normalement avec le genre de la SF. J'en vois de plus en plus et c'est un genre que je trouve de toute manière très intéressant. Non mais du coup c'est un genre avec lequel je deviens de plus en plus familière. Et du coup, moi, j'avais pas vu Dune 1 à sa sortie. Je l'ai vu là, il y a 2 semaines, quand il passait au UGC Léal et tout. Du coup, le souvenir, j'en avais un souvenir très frais. Et moi, j'avais beaucoup aimé le 1 parce qu'en fait, ce que j'aime dans la SF, c'est tout l'idée de créer un monde et de créer un univers. Et du coup, le 1, je trouvais que comme t'arrives là, t'as tellement de trucs à prendre, à visuellement, c'est extrêmement beau. Et c'est toute une ambiance où t'as j'ai pas d'autre mot qu'un univers à découvrir, en fait. Et du coup, ça, moi, j'ai trouvé ça super satisfaisant. Ce qui fait que le 2, j'ai vraiment adoré la première partie, parce qu'en fait la première partie se concentre sur Paul qui s'intègre dans le peuple des Fremen, qui apprend leurs habitudes, qui va même chevaucher un Vers des Sables, et Vers des Sables c'est un...
J'ai noté une quote du Masque et la Plume sur le premier Dune qui disait genre, ah c'est quand même le seul film où le héros chevauche un ver qui a une tête d'anus, et ça m'a fait mourir de rire.
Si leur anus ou cette tête là, je m'inquiète pour eux, genre
perso mon anus ressemble à ça.
Alors du coup oui, moi en fait ce que j'aime du coup dans les films de SF, c'est vraiment être immergé dans cet univers. Donc la première partie où Paul découvre les coutumes des Fremen et là du coup je vais que répéter univers parce que j'ai pas d'autres mots, mais c'est toute une découverte qu'on a à faire de coutumes, de gens, je trouve ça super intéressant. Et en fait moi pour vous tout vous raconter, en fait après le film j'étais un peu déçue. En fait j'avais un truc où j'avais un pincement au cœur et du coup je pensais n'avoir pas aimé. En fait je pense que c'est pas ça. En fait je vais pas que Timothée soit si méchant. Ah, parce que en gros le film est vraiment quand même très critique à l'égard de son héros, donc joué par Timothée Chalamet. Et je crois qu'en fait moi, et c'est là où je trouve et la force du film vraiment, c'est que moi je suis entrée en empathie avec les personnages, et c'est un peu facile à dire, en fait c'est un peu la base d'un récit, mais dans les films de SF moi souvent ce qui me manque, c'est que je reste assez froide, assez extérieure au récit, parce que on se concentre sur les prouesses techniques, sur l'histoire qui est souvent un peu philosophique ou des choses comme ça, sans s'attacher vraiment aux émotions, à être en empathie avec les personnages, à rentrer dans le récit qui se fait à une échelle intime. Et là je trouve que c'est vraiment le cas, et c'est ce qui fait la force de ce film là c'est que la relation notamment entre Paul et Chani est très bien développée, où en fait t'es en empathie, t'es comme devant c'est bête à dire, mais il y a des fois je trouve que les films de SF sont très froids et tu rentres pas dedans, et là je trouve que c'était le contraire de froid justement. Et Nora, tu disais t'étais restée des fois un peu extérieure, moi pas du tout, et les 3 heures elles sont passées très très vite. Enfin, c'est pas tout à fait 3 heures, je crois. Mais voilà. Et c'est passé super vite. Enfin, vraiment. Et en fait, je trouve que malgré le fait que j'étais pas très contente de la fin, et j'étais comme non, je voulais que ça se termine autrement, c'est pas juste.
En plus, hein.
Non, il va faire un 3 après.
Oui.
Mais du coup, oui, moi je trouve que c'est vraiment la force de ce film-là, c'est qu'il arrive à manier en fait des échelles énormes de, comme Enora disait, en fait, on filme des grands déserts de Paul qui est un petit point dans le désert, et en même temps, il fait des gros plans sur ses personnages, on arrive vraiment à capter leurs sentiments et à être passionné par une histoire qui est mine de rien très, très intime en fait, et qui est à l'échelle personnelle, et moi je trouve que voilà, c'est là où le film m'a vraiment emporté.
Moi, je la trouve pas hyper développée, hein, leur histoire d'amour.
Moi, je trouve que c'est juste comme...
Il se passe pas grand-chose.
Moi, je trouve que justement, c'est comme il faut, et... Je sais pas, justement, je trouve que leur lien...
Il y a plus. Plus de plans tournoyants, ils s'embrassent dans le désert.
Ah oui, ça, par contre, tu l'as, je t'en fais chier.
Margot.
Non mais en vrai, moi, il y a quand même quelque chose qui m'a énervée dans ce film, c'est le fait de vouloir toujours faire plus au niveau du casting, parce que vous l'avez dit, c'est que, enfin, c'est vraiment, mais il y a que des grands noms. Mais par contre, je sais plus, c'était Margot, tu disais voilà, le personnage de Faye Drota, du coup, c'est celui qui est joué par Austin Butler. Le personnage qui est joué par Austin Butler est effectivement, je trouve, scénaristiquement pas très intéressant, et tu vois tout de suite les tenants et aboutissants de ce qui va se passer. Mais par contre, je trouve que ça donne lieu de manière filmique à des scènes super intéressantes qui sont en noir et blanc, qui sont du coup sur la planète des Harkonnen, parce que du coup c'est la famille de laquelle est issu, voilà, les méchants globalement, et lui même en termes de style est complètement transformé, ça fait peur, mais c'est enfin vraiment super intéressant de manière filmique, même si effectivement de manière scénaristique c'est pas ouf. Et encore une fois, moi j'en ai marre que faut mettre autant d'argent dans des stars, là c'était presque comme si tu faisais du name dropping mais littéralement à l'écran de gens qui étaient là, et je sais pas, j'aurais eu envie même peut-être de découvrir des gens, tu vois, que plutôt voir des grands noms. Mais je vois que Arthur est pas content, il réclame le micro, donc je lui laisse me répondre.
Non, non, juste pour te répondre là-dessus, moi au contraire, je trouve, alors que pourtant d'habitude les avalanches d'acteurs, c'est un truc qui a tendance à vraiment me gonfler. Là, j'ai beaucoup aimé parce qu'on est face à un problème qui est que je prends par exemple l'exemple de l'empereur, qui est un personnage central dans la mythologie de Dune, mais qu'on voit quasiment pas. Donc on pourrait dire, bon, on pourrait mettre un Vioc pas connu au hasard et tout ça. Et non, on met Christopher Walken, qui est un immense acteur américain, qui est un immense acteur américain assez ancien, qui aujourd'hui tourne plus beaucoup et qui du coup a vraiment cette valeur de patriarche là. C'est bien et important, je pense, quand on a des films avec des personnages hyper importants qu'on doit très très vite reconnaître, mais qui ont 10 minutes de temps à l'écran, en fait, qui soient tout de suite identifiables par le grand public. Vous voyez Christopher Walken, ça vous tape un peu dans l'œil, et du coup, vous savez que Christopher Walken, pour les gens qui ont du goût, je trouve qu'utiliser du coup de grands acteurs, ça permet en fait, de simplifier, de fluidifier la compréhension pour le public, et c'est un rôle pour moi scénaristique qui est assez intéressant. Après, moi, j'aimerais aussi revenir sur l'arc en fait qu'est en train de faire Denis Villeneuve. Alors, il y a un troisième film, on ne sait pas encore trop ce que ça va donner. Il a dit qu'il voudrait attendre quelques années avant de le faire. Déjà, ce que je trouve être une super sage décision, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas retrouvé avec des exécutifs de Disney qui fait ouah, le premier film a marché, mettons 8 séries en place pour les 2 prochaines années. Non, on a attendu 4 ans avant de voir un film. On va sans doute attendre quasiment 6 ans pour avoir un troisième, puisque Villeneuve va du coup faire une pause. Un effort qui est hyper louable et hyper sain dans une industrie qui du blockbuster qui est malade et qui dysfonctionne complètement. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup la filmographie que prend aujourd'hui Denis Villeneuve, qui réécrit de plus en plus simplement le mythe du héros en ramenant à chaque fois une étape supplémentaire et en chaque fois montrant que ce sont justement des constructions et pas des faits tout simplement établis comme on a souvent l'habitude de le voir dans des films standards qui reprennent le schéma du héros très très classique. C'était au cœur de Blade Runner 2049 avec comment on construit un héros, là c'est comment on construit un mythe, comment on construit un messie. C'était aussi plus ou moins le cas dans Premier Contact. C'est voilà, une manière de travailler ces figures-là en fait du langage, de la construction, de la religion, des mythes, des rites qui est hyper intéressante. Et d'une a en plus de ça je ne sais pas trop comment en parler et ça peut paraître très mineur, mais moi ça compte beaucoup pour moi, c'est qu'il fait très attention au cérémoniel, c'est-à-dire à des choses qui sont hyper quotidiennes dans leur monde à eux, mais qui nous montrent nous comme si on était des spectateurs qui iraient assister à ces cérémonies, à tous ces rites et tout ça. Et ça rajoute quelque chose d'hyper fort et ça charge symbolique tout le film. Donc moi j'étais vraiment transporté, et comme tu as dit Juliette, il y a un côté aspect découverte du monde qui est un peu moins présent que dans le 1. Bah fatalement on a déjà passé 2h30 avant sur Arrakis, donc on s'y connaît déjà un peu, on sait déjà s'y repérer, mais mine de rien il y a toujours cet aspect découverte qui est hyper florissant et hyper intéressant. Et j'adore ce que fait en ce moment Denis Villeneuve, et je pense que dans les propositions hyper grand budget hollywoodiennes qu'on a en ce moment, je trouve que c'est potentiellement celui qui est le plus intéressant actuel.
Je suis complètement d'accord avec toi. Après, si je peux juste rajouter un dernier point qui est un point négatif, j'avoue que moi un truc qui, donc en fait je redécouvre que je suis la seule à avoir aimé le 1, mais bref, moi un truc que j'avais bien aimé dans le 1 justement, c'est l'aspect tout écologique en fait, et de comment on arrive sur une nouvelle planète, et au lieu de parce qu'en gros ils colonisent Arrakis tous ces peuples là parce que il y a de l'épice dessus, et que l'épice c'est en gros ce qui permet de faire voyager les vaisseaux entre les planètes. Et donc en gros les Fremen dans le premier sont vraiment montrés comme en fait ça fait le parallèle avec ce qui s'est passé avec la colonisation sur Terre et les peuples autochtones, etc. Et ça rajoute, je trouve, une vraie dimension écologique qui pour le coup est beaucoup moins présente dans le deuxième, et j'ai l'impression que Villeneuve prépare aussi plus vers la fin, la suite de son récit, et se détache plus du peuple des Fremen et de cette petite échelle-là pour aller vers le plus grand, ce qui, moi, me passionne moins. J'avoue que j'aimais bien le fait de rester sur cette planète et tout le point de vue écologique que là, on a moins. Donc voilà, c'est pour nuancer un peu mon avis, même si je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un des... Je sais pas, je suis pas très forte en blockbuster, et voilà, mais en tout cas, c'est un super blockbuster, je pense que dans l'année, ça va rester comme l'un des meilleurs.
Un peu comme Oppenheimer.
Ah, moi j'avais beaucoup moins aimé Oppenheimer. Oui. Bah, Oppenheimer travaillait beaucoup moins ses personnages, notamment ses personnages féminins par exemple. Hein.
Oui, non, je suis d'accord.
Mais c'est vrai que Villeneuve et Nolan sont peut-être aujourd'hui les deux seuls à qui tu donnes 200 millions de patates, avec peut-être Scorsese, mais ils sont. James Cameron, mais qui fait un film tous les 15 ans.
Puis cette année, il y a aussi eu Greta Gerwig un peu.
Ouais, mais c'est ça. Mais, oui, mais
c'est ça,
Greta Gerwig.
C'est un
Barbie
en fait. Barbie,
c'est pas ouf. Non, Barbie, et puis Barbie, Greta Gerwig, on l'a pas donné 150 millions de patates à Barbie parce que c'était Greta Gerwig. On a donné ça parce que c'était Barbie.
Et Mattel. Non, c'est aussi. Mais dans Barbie, il n'y a pas que Mattel, il y a aussi Margot Robbie qui a vachement investi pour le film parce que c'est aussi une productrice, et que c'est aussi. Enfin, c'est pas juste Mattel qui a mis la.
Non. Parce que, oui, mais c'est pas la réalisatrice. C'est pas. On met
non,
pas.
Non, mais c'est aussi pour faire un projet spécifique, mais pas sur le nom de la réalisatrice.
Oui,
je suis d'accord.
En tout cas, c'est moi le truc que je voulais porter, c'est aujourd'hui selon Villeneuve, Nolan. Alors, malheureusement, c'est un boys club hyper fermé qui sont aujourd'hui les seuls à qui on confie 200 millions pour.
Qui sont un peu des vrais cinéastes entre guillemets, presque auteurs, mais qui font quand même des blockbusters et donc de qualité en général.
Oui, qui sont pas là comme Greta Gerwig qui a fait beaucoup Barbie, alors qui est un film qui m'a assez plu aussi, mais qui c'est un one shot. Je sais pas si elle aura, si elle fait un film indépendant de toute franchise, 100 millions de patates et une liberté d'action complètement folle comme les deux peuvent l'avoir.
Moi je voulais juste finir sur une note très personnelle qui est que
Je suis très contente que Denis Villeneuve ait très bien réussi Dune, mais je peux pas m'empêcher d'être triste quand je vois toutes les balles perdues pour le Dune de David Lynch. Donc moi, je compte lancer une pétition pour réhabiliter le Dune de David Lynch, parce que je trouve que c'est le meilleur, c'est hyper camp en fait. C'est vraiment le meilleur nanar que j'ai jamais vu de ma vie, c'est excellent, voilà.
J'ai super envie de le voir, mais je vous propose quand même qu'on passe à notre pic de la soirée, Madame de Sévigné.
Je veux que vous ayez la place que vous méritez. Je vous veux heureuse, indépendante et maîtresse de votre destinée.
Madame de Sévigné, vous vous égarez.
Je ne crois pas, sire. Mais c'est le roi. Vous vous marierez. Tout ça sera oublié.
Grignan !
Vous en êtes arrivé à envisager n'importe quel mariage pour votre fille. Le nom de Grignan peut séduire, mais enfin, une maison qui prend l'eau de toutes parts.
Je découvre que l'absence de votre sœur m'est insupportable. La douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Maintenant qu'il a un héritier, votre papa n'aura plus besoin de coucher avec ma fille. Aimez-moi toujours, c'est la seule chose qui me peut donner.
Qui va nous être présenté par Pauline tout de suite.
Du coup, c'est un film réalisé par Isabelle Brocard qui s'inspire de la correspondance entre Madame de Sévigné, donc l'écrivaine, qui je crois n'a rien écrit en dehors de ses correspondances, qu'elle échange avec sa fille. Donc sa fille qui est incarnée par Anna Girardot et elle, Madame de Sévigné, incarnée par Karine Viard. Donc voilà, c'est un film qui retrace leur vie et leur relation pour le moins toxique. Je sais pas ce que t'en as pensé, Valentine.
Alors moi, je suis rentrée dans la salle à reculons parce que j'avais vu la bande-annonce et vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. On dirait que c'est Stéphane Bern qui a réalisé ce film avec l'aide d'Ariel Dombal. Enfin, sauf ton respect, Ariel, je t'adore. J'espère que tu n'écoutes pas Popcorn, quoi que ce soit complètement possible. Mais en tout cas, moi, je n'avais aucune attente. Je m'étais dit que c'était vraiment le cliché du film français ultra poussiéreux d'époque. Enfin, vraiment qui, en gros, c'est des gens qui se font plaisir parce qu'ils ont une bonne place dans le milieu du cinéma et qui vont réaliser un petit film historique à 5 millions. Enfin bon, bref, je vais me calmer. J'arrête de tirer sur l'ambulance, comme on dit. Mais en tout cas, j'avais vraiment pas du tout un bon a priori. Et écoutez, bon, c'est pas ouf. Voilà, mais j'ai pas non plus, j'ai pas aimé ce film, je vous le recommande pas, honnêtement, ça reste quand même une mise en scène ultra classique, des acteurs qui sont vraiment pas très bons, un rythme qui est pas de rythme, enfin, Karine Viard est excellente dans ce film, parce que c'est une excellente actrice, je pense. Anna Girardot, que je trouve bonne de temps en temps, n'est pas très bonne ici, mais bon, c'est pas très grave, je vais focus sur ce qui est bien dans ce film, parce que je m'y attendais pas. Il y a quand même une exploration de une relation mère-fille qui est ultra toxique, et pourtant qui se veut, du point de vue de Madame de Sévigné, libératrice dans un monde où dans un monde du XVIIe siècle où la liberté des femmes, enfin voilà, est quand même un concept assez intéressant à observer, parce que bah, de notre point de vue, évidemment, il y a absolument aucune liberté et c'est en gros un choix entre le couvent et le mariage. Du point de vue, cela dit, de Madame de Sévigné, elle s'est libérée en écrivant, en prenant son indépendance toute relative, mais enfin quand même en prenant une forme d'indépendance vis-à-vis de son mariage, etc. Donc ça, on a une femme entre guillemets libérée, une femme libérée du 17e qui essaye d'imposer à sa fille la même libération et qui donc rentre dans une relation complètement abusive avec elle, tout en pourtant étant la force libératrice dans la vie de cette fille qui est qui est ultra soumise à son mari comme toutes les femmes à l'époque. Donc il y a quelque chose d'intéressant, il y a ce que doit à mon avis être un film d'époque, c'est-à-dire une réflexion sur un regard de notre époque sur une époque révolue, sans pour autant faire parler les personnages comme si c'était des féministes de notre époque, ce que je trouve ridicule et qu'on voit parfois dans du cinéma pas très bon, qui est comme ça aurait pu être le cas de ce film. Bref, tout ça pour dire, j'essaie de sauver les meubles, je ne vous le recommande pas nécessairement. Il y a de la musique sentimentale à la Lully toutes les deux minutes pour vous faire comprendre que vous devez être triste. Le château de Grignan est super beau, moi je vous invite, en fait, plutôt que d'aller voir ce film, je vous invite à prendre un billet de train pour Montélimar et d'aller visiter le château de Grignan, parce que au milieu des lavandes, c'est vraiment super. Il y a un moment donné Il y a un moment donné, d'ailleurs, où pour nous faire comprendre que ça se passe à Grignan, ils mettent un maximum de sons de cigales. Et moi, bon, bah, ça m'a fait de l'ASMR et j'ai bien aimé ce moment. Voilà, bref. Que, en fait, la fille de Madame de Sévigné a épousé le comte ou le marquis. Comte, il me semble, de duc, ouais, peut-être. Le duc de Grignan. Et donc, il allait vivre à Grignan et s'est séparé de sa mère. Et c'est cette déchirure-là qui a donné lieu à l'œuvre littéraire de Madame de Sévigné en partie, puisqu'elle écrit la plupart de ses lettres à Madame de Grignan, donc sa fille. Et voilà. Et moi, j'aime toujours, en fait, bon, ce film est objectivement mauvais, mais j'aime toujours les histoires d'amour non conventionnelles, en l'occurrence une histoire d'amour fou et destructeur entre une mère et sa fille, qui... Enfin voilà, pour montrer que l'amour... Oui, une histoire d'amour, Margot, car l'amour, c'est pas que... c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Bah, donc voilà, je sais pas si Pauline, t'as des choses à rajouter, peut-être pour défendre ou enfoncer ce film.
Non, en fait, je pense que dans l'ensemble, je vais te rejoindre. En fait, c'est un film sur lequel j'avais pas d'attente, pour le coup, j'avais même pas vu la bande d'annonce. Là où j'ai pas trop. Enfin, Karine Viard, je l'ai trouvée vraiment excellente. Pour le coup, c'est vrai que les autres acteurs, et surtout les hommes, sont mauvais. Mais en dehors de ça, elle, son personnage, il est vraiment travaillé et je trouve qu'elle l'incarne très très bien. Sinon, ouais, c'est un film qui est un peu précieux. Bon, en même temps, voilà, c'est le thème, c'est sur la préciosité. C'est un film qui se fait plaisir, qui va citer Rabelais, Madame de Lafayette, qui va citer les lettres de Madame de Sévigné. Donc voilà, on est dans cette ambiance-là, faut s'y préparer. La photographie épouse assez bien cette idée aussi. Elle est soignée, un peu trop soignée limite. Elle est, enfin voilà, il y a rien d'audacieux. Ça fait un peu conte de fées, mais pourquoi pas. C'est pas un grand film. Je vais te rejoindre, mais c'est pas désagréable à regarder. Pour ce que c'est assez bien fait.
Et on puis fait quand même sacrément chier, pardon, je vais couper, parce que là on dirait que c'est assez bien. Enfin, les gens vont croire que c'est bien. On se fait bien chier quand même. Enfin, entre deux citations, oui, comme tu dis, de Rabelais, de La Rochefoucauld et le truc, moi je suis la première à adorer le 17e siècle, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà quoi.
Bah, après, c'est longué, mais ça va quoi en termes de. T'as pas vu du coup La Mère de tous les mensonges, mais...
moins long que
je l'ai... Ouais, moi je l'ai vu juste après, j'ai enchaîné les deux et honnêtement ça allait quoi, c'était pas à ce point long quoi. Mais et sinon j'ai trouvé ça intéressant aussi sur le rôle de la mère, parce que c'est quand même un thème, les mères qui un peu oppressives par leur amour débordant, c'est un thème qui est récurrent surtout dans la littérature mais dans le cinéma à la limite aussi. Et pour le coup, c'était montré... Je trouve que la mère était pas détestable comme personnage et assez touchante au fond, donc pourquoi pas. Après, voilà, c'est pas... Enfin, faut le juger pour ce que c'est pas un grand film, c'est quelque chose de super précieux, d'un peu bourgeois aussi, quoi, qui se fait plaisir, mais pourquoi pas.
Et n'hésitez pas à aller visiter le château de Grignan si jamais vous passez dans la Drôme, parce qu'en tant que dromage, je suis obligée de faire de la pub pour ce magnifique patrimoine. En mangeant des ravioles, voilà. Et en vous parfumant de l'huile essentielle et de lavande, voilà.
Et de l'huile d'olive au basilic et des fromages de chèvre.
Voilà, exactement. Et des picots d'ombre.
Sur ces belles paroles, et maintenant qu'on sait que sur les îlettes vont manger des ravioles, sur ces belles ravioles, exactement, sur ces belles ravioles, nous allons vous laisser pour ce soir. Nous espérons que le moral est au beau fixe malgré ce temps de merde et que vous passez autant de temps qu'il se doit dans les salles de cinéma. Et on vous dit bonsoir.
Bonsoir.